Bonjour et bienvenue, c'est enfin la rentrée pour Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter. Une émission à trois voix et beaucoup de sons dans tous les sens, bref, une émission sensationnelle.
En direct du studio 511, Comme un bruit est réalisé cette année par l'excellent Jérôme Chélius, assisté désormais de Lucille Valérie, qui a rejoint l'équipe, et avec la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard.
Pour une émission de rentrée disruptive, au MEDEF, une visite pendant l'université d'été du patronat guidée en toute objectivité par Guy Ventil, le bonheur sur ordonnance. Et en même temps, non, juste après, parce qu'en même temps c'est pas possible, à UZEST, un hacking radiophonique ou détournement sonore par Radio UZ du festival du Zest musical. Et c'était la 40e édition cette année, la liberté sans ordonnance.
C'est quoi ma liberté? Ma liberté, c'est ce que je sais pas, quoi. Mais ici, j'ai le droit. J'ai même le devoir.
Ici, une visite d'été. Elle est faite dans un espace confiné. On se retrouve entre nous. Alors, qui ne partage pas nos idées, d'accord. Mais qui vient nous casser les pieds, tout ça d'une violence rare.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court, c'est donc reparti pour une 4e saison de reportage à feu et à son. Et nous sommes tous les trois ravis, Guy, Antoine et moi, de vous retrouver cette année encore pour vous emmener sur le terrain, là où ça se passe, là où ça grince, là où on y croit, auprès de ceux qui luttent, de ceux qui se battent. Alors pour bien commencer l'année, pour vous donner à tous l'envie d'y croire, Guy, tu es allé voir les héros de la nation. Pas les anciens combattants, hein, ça fait un peu ringard, non, les nouveaux héros, ceux de la start-up nation.
Oui, c'était une de mes bonne résolution pour la rentrée, avoir la gagne, prendre des forces, parce que maintenant que les ordonnances sur le droit du travail sont passées, ont été dévoilées, on s'attend aux gémissements des râleurs passéistes barricadés sur leurs avantages acquis. J'ai bon là pour les éléments de langage,
très bien, c'est bon,
je suis au
bon.
Point, ouais. Parce que il faut dire que j'ai été formé cette semaine aux deux journées de l'université d'été du MEDEF, le syndicat patronal, où on buvait du petit lait avec un slogan « Confiance et croissance, l'avenir c'est la France ». Alors c'est vrai que pendant ce temps-là, juste en face...
En même temps.
Ah pardon, un cortège de syndicalistes protestait en demandant la séparation du MEDEF et de l'État. Tout le monde était là, donc même notre collègue, Guillaume Neuris, que nous avons croisé au milieu de la bagarre. Bref, le moral était au beau fixe.
Ah bah oui, bah c'est sûr que le moral peut être au beau fixe et que le soleil peut briller pour les patrons français. Parce que je sais pas si vous avez entendu passer ça cet été, mais c'est vrai qu'il y avait de quoi de mettre du baume au cœur de l'actionnaire.
Des montants au sommet. En 2016, les actionnaires du CAC 40 se sont partagés près de 46 milliards d'euros de dividendes, presque un record. Les grands groupes renouent avec leur niveau d'avant-crise. En 2016, les entreprises du CAC 40 ont reversé la moitié de leurs bénéfices aux actionnaires.
Et oui, 46 milliards d'euros versés aux actionnaires, ce qui fait que la France reste championne d'Europe en la matière. Mais bon, moi, à leur place, je ferai profil bas. Faudrait pas trop que ça s'ébruite quand même, cette histoire, ça pourrait devenir dangereux.
Une occupation du MEDEF, peut-être ?
Peut-être pire, Antoine, peut-être même pire, qui sait. En tout cas, heureusement, le ministère de l'Intérieur a déjà tout prévu et il a renfloué le stock de grenades lacrymo autour de l'été. Il y en a plus d'un million au chaud dans les caves pour préparer la rentrée. Bon, faut dire qu'entre Calais, Sivens, Notre-Dame-des-Landes et les manifs contre la loi travail, les stocks prévus pour 4 ans avaient été rincés l'année dernière.
Et aussi la ZAD Casaubon à UZEST.
Ah bah oui, 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 bien sûr, la ZAD Casaubon. Mais ça c'est une fiction radiophonique que tu nous as ramené. Amené du festival du Zest, Antoine.
Ouais, une fiction, mais une fiction du réel et de ce qui peut nous arriver si on baisse la garde et si on se mobilise pas. Et à UZEST, on lâche rien, parce qu'on est plus à l'époque des grandes surfaces que des grandes profondeurs. Faire des villages dortoirs, construire des parkings, des lignes à grande vitesse et des multiplexes. À Notre-Dame-des-Landes, on lâche rien non plus, comme à Douarnenez, super festival de cinéma et de résistance. Et ça fait 40 ans que ça dure, à Douarnenez comme à UZEST et plus encore à Notre-Dame-des-Landes. Des lieux de résistance, comme il en existe beaucoup et où on ne se privera pas d'aller tout au long de l'année, dans le dur et en toute objectivité en même temps.
Comme un bruit qui court, saison 4, la première, c'est jusqu'à 17h sur France Inter. Et c'est parti, tout de suite direction Jouy-en-Josas pour l'université d'été du MEDEF où l'on se réjouissait déjà des ordonnances de la loi travail.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Ventil.
Au fond, mesdames et messieurs, c'est un ensemble de mesures cohérentes, équilibrées et ambitieuses que nous allons mettre en œuvre.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
pour l'instant, Emmanuel Macron fait à son faute.
Non, mais je pense que ce qu'a dit Pierre Gattaz a été vrai. Et là, le jeu est ouvert pour savoir si la France part du bon côté de l'histoire ou continue du mauvais côté.
On est d'accord.
Ah là, je vois Monsieur Gattaz qui passe et qui est entouré d'une cour.
Il a l'air de bien être accompagné, en effet.
Et surtout, il a l'air d'être très content des ordonnances sur le code du travail.
Je veux y croire. Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
Je veux y croire.
Et nous y croyons.
Vous savez, Jacques et moi, sommes tous des patrons de PME.
Dans la distribution et monsieur dans le bâtiment.
Exactement.
Aujourd'hui, il faut arrêter de nous raconter. Si, c'est parce qu'on ne veut pas embaucher les syndicats et quelques ayatollahs qui se nourrissent d'un discours populiste. Et nous sommes des patrons de PME. La lourdeur du code du travail, la lourdeur des postures administratives, ça nous le subissons tous.
Et là, je rebondis simplement sur ce que mon ami dit, c'est que on y croit, on espère que les ordonnances sur le travail vont aboutir, parce que si ça n'aboutissait pas d'une manière correcte, là ça serait un frein terrible aux réformes.
On espère qu'il tiendra ses promesses. Voilà.
Parce que c'est notre projet !
Bonjour à tous, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en cette fin du mois d'août pour célébrer le monde de l'entreprise, les entrepreneurs que vous êtes. Ici réunis, vous serez près de 7500 sur ces deux journées qui promettent d'être chaudes, intenses. Confiance et croissance, l'avenir c'est la France. Voilà la thématique qui va être développée et déclinée durant cette université d'été. Et je vais vous demander de faire une ovation à notre président, le président du MEDEF, monsieur Pierre Gattaz.
Bonjour Frédéric.
Merci de l'accueillir.
Chers amis, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver encore pendant deux jours. La fête de l'entreprise, c'est la fête de l'esprit d'entreprise, de l'audace, du courage. Profitez-en pour réseauter, apprendre, vous amuser. C'est la 19e université d'été du MEDEF. Profitez-en.
Licenciez les patrons.
Profitez-en.
Dernier mot, et après je vous laisse. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, devant l'université d'été du MEDEF, il y a un groupe de manifestants qui sont là pour dire bloquons le MEDEF.
Si moi je les ai eus, il paraît que ils en sont même au lacrymo là maintenant. Ils en sont même au lacrymogène là, il paraît.
Sur le rond-point là.
Ils ont bloqué, moi j'ai passé une heure à être bloqué. Je dirais que ce sont des procès d'un autre âge. C'est presque même de la violence. C'est de la violence pour moi. C'est de la violence. Ici, c'est une manifestation, c'est une université d'été. Elle est faite dans un espace confiné. On se retrouve entre nous. C'est nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Alors, qu'ils ne partagent pas nos idées, d'accord. Mais qu'ils viennent nous casser les pieds. Non, c'est de la violence. Mais de toute façon, je veux que les gens qui disent la violence ouvre une boîte de Pandore.
Qui peut aller jusqu'à la violence politique, le terrorisme.
Nous, on n'embête personne. On fait notre réunion dans un coin.
Avec vos ministres.
Voilà. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de venir, quand ils font leur été ou quand ils font la fête de l'UMA ou quelque chose, de venir manifester. Laissons-les faire. Maintenant, venir paralyser nos réunions, je trouve ça une violence rare. On appelle ça dogmatique, qui agite des principes d'un autre âge totalement dépassé.
Alors, j'ai une confidence à vous faire. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve pour la France. J'ai rêvé d'une France fière, fière d'elle-même, fière de ses talents, fière de ses compétences, fière de ses entreprises, fière de ses entrepreneurs, fière de ses chefs d'entreprise, que j'aime appeler héros de la nation, en espérant qu'en 2030, vous serez reconnus comme des héros de la nation. Et je voudrais vous dire, merci, vous êtes ceux qui créent les croissances, ceux qui créent la richesse, ceux qui galéraient tous les jours, qui tombaient, qui redressaient. C'est formidable ce que vous faites. Merci, merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites et bravo.
Une question de Caroline, Muriel Pénicaud. Donc vous dites qu'il n'y a plus de lutte des classes. Facile à dire quand on a bénéficié de plus d'un million d'euros de stock options.
Alors,
ça fluidifie la lutte des classes, ça c'est sûr.
Il y a un débat sur la rémunération des dirigeants et on peut avoir un débat là-dessus. J'ai
Je suis prête à en débattre.
Mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier.
Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger deux minutes ou vous allez prendre la parole tout de suite ?
Non, je ne prends pas la parole.
Ah bon, d'accord.
Je suis intervenant, je suis intervenant cet après-midi.
Donc, Tanguy de la Fouchardière.
Moi, je suis président de France Angel.
Déjà, pour commencer, parlez-moi un peu de l'état d'esprit qui règne à cette université d'été aujourd'hui par rapport aux enjeux pour les questions du travail et de l'économie française.
Effectivement, on a un milieu qui progressivement se donne confiance. Le rendez-vous des gens qui entreprennent et pour entreprendre, pour créer des emplois.
C'est la France qui gagne, quoi.
Oui, qui gagne, mais j'aime pas trop le terme qui gagne. Vous savez très bien qu'en France, celui qui gagne de l'argent, il est mal vu, à part s'il est footballeur. Non, c'est pas très bien vu. C'est la France qui crée des emplois, qui crée de l'économie, des gens qui prennent des risques. Ils font pas ça comme ça pour devenir riches, ils prennent des risques pour pouvoir avoir cette passion de pouvoir construire des emplois durables en France. Vous avez France Inter, là. Tiens, parle à monsieur. Voilà.
Voilà.
Ça va bien.
Je vous laisse dire bonjour.
Non, maintenant, je vous laisse, là.
Bon, Guillaume Meurice, cher collègue, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je vous croise dans les travées. On est les deux seuls à être en chemisette et sans costard-cravate, à peu de choses près.
C'est vrai.
Et là, vous êtes là pour la rentrée, pour de l'incentive, pour être proactif, pour être un winner et pour aller de l'avant avec ces nouvelles ordonnances au travail, c'est ça ?
Je suis même là carrément pour être disruptif. Et c'est vrai que les universités d'été du MEDEF, c'est le passage obligé. Hein.
Oui, parce que vous êtes un habitué, vous aussi.
C'est ma zone de confort. Clairement, je me sens bien avec ces gens-là. Ils sont décomplexés, ils sont à l'aise, ils sont entre eux et ils se sentent pas en insécurité, quoi. Parce que souvent, le patron... Enfin, le gros patron, là, on parle quand même du MEDEF, hein, on parle pas du boulanger du coin. Le patron sait que quand même, il n'y a pas le cul totalement propre. Alors, quand on le chope dans un cadre qui n'est pas le sien, il a tendance un petit peu à être rétif, à être méfiant. Ouais. C'est pour ça, il place son argent un peu à droite à gauche, parce que voilà, il fait pas confiance à son prochain. Mais alors là, il peut. Là, c'est une sorte de réserve naturelle, en fait. Un élevage, voilà. Et vraiment, ça donne envie d'être riche. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui ont cette envie d'avoir de l'argent.
Mais alors, justement, il y a en ce moment même qui sont en train de s'amasser, se regrouper à la sortie du campus d'HEC où on se trouve.
Un groupe de jaloux, évidemment. Bon, ben voilà, c'est sûr.
C'est les contre-manifestants.
Ouais. Je les ai vus en arrivant, ouais. Je vais aller les voir après par Jupiter.
Bonne rentrée.
Merci beaucoup.
Voilà, et pendant que Guillaume Meurice est comme un poisson dans l'eau parmi les patrons, on continue dans le dur de ces mesures avec des patrons toujours aussi contents.
Je suis Olivier Millet, président de l'AFIC et président d'Oraseo PME, qui investit dans des entreprises de taille intermédiaire. Je peux juste ajouter mon optimisme à l'optimisme ambiant.
Et il vient d'où cet optimisme ?
Je pense qu'on en a assez de broyer du noir. Quoi qu'il arrive, il faut que ça change. Parce qu'il y a une réalité économique, sociale, où il y a une vraie volonté de changement, une vraie volonté de rentrer dans le 21e siècle, ce qu'on n'avait pas fait encore. Et je pense que les archaïsmes bolcheviques, on va finir par les enterrer.
C'est-à-dire, c'est quoi les archaïsmes bolcheviques ?
La lutte des classes. Il y a des vrais problèmes sociaux, mais on ne résout pas les problèmes sociaux avec la lutte des classes, mais par un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus collaboratif, entre le capital et le travail, il y a une réconciliation qui est à faire et tout le monde en a envie.
C'est-à-dire qu'on a un archaïsme en France, c'est le rapport avec l'argent, où l'argent, c'est pas bien de l'avoir gagné de l'argent, c'est pas bien de faire gagner de l'argent aux gens. L'argent doit être capté par l'État pour être redistribué de façon un peu aléatoire et pas toujours...
Ça, c'est le côté bolchevique, c'est ça, c'est la redistribution.
Oui. Je pense que les versions 100% étatiques ont vécu et les évolutions de la loi travail, c'est une alliance entre l'État et le privé. Je pense qu'on est à l'aube d'une belle évolution. Macron utilise le mot transformation. Laissons-le bosser, quoi. Laissons ce gouvernement travailler. Laissons ce gouvernement essayer. Et il sera toujours temps de révolter bolchevique dans 5 ans, de nationaliser toute l'économie française.
Les Françaises et les Français détestent les réformes. C'est un peuple qui déteste cela. Et il faut lui proposer de se transformer en profondeur.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est le moment d'engager des transformations.
Pour transformer notre pays.
Transformer en profondeur.
Je crois qu'on a trouvé un transformeur.
Transformer. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin d'un choc de confiance, d'une vraie accélération, d'une détermination à l'épreuve.
Je vous ai compris.
Moi-même,
J'ai essayé de comprendre.
Mais il a le droit.
Mais bien sa manière.
Ce n'est pas moi. C'est pas nous.
La gauche.
La droite.
La gauche.
La droite.
La gauche. La gauche.
La droite.
La gauche.
Et parce que nous avons besoin de faire passer cette réforme pour que les premiers effets s'en fassent sentir assez rapidement.
Il veut réformer le marché du travail, il veut baisser la fiscalité, il veut libérer des talents, il veut jouer l'économie. Eh bien, je crois que ce sont pas des valeurs de gauche ou de droite.
Donc, il y aura un dialogue social. Mais derrière, je demanderai à ce que le Premier ministre sollicite par un projet de loi d'habilitation l'autorisation au Parlement de procéder par ordonnance, parce que c'est plus rapide et efficace sur ce sujet.
Profitez-en.
Et la liberté, vous savez quoi ? C'est une valeur de gauche.
Ni gauche, ni droite, juste libérer l'énergie des entreprises, faciliter les licenciements, plafonner les indemnités et ratiboiser enfin l'impôt sur la fortune. Bref, pour les patrons à l'université d'été du MEDEF, c'est du bonheur sur ordonnance. Mais profitez-en, parce que ce que vous entendez là, c'était avant l'annonce des ordonnances ce jeudi. Et depuis, le MEDEF a choisi d'avoir le triomphe modeste, la victoire discrète. Pierre Gattaz n'a officiellement salué qu'une première étape et son numéro 2 a déjà prévenu, il n'y aura pas d'autre vague. Il n'y aura pas de vague d'embauche. Le meilleur est peut-être encore à venir. Vite, vite, retournons à l'université du MEDEF pour une nouvelle bouffée d'optimisme.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
Bonjour.
Alexandre Mars.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes serial entrepreneur.
Oui.
Et vous êtes aussi à la joie. J'ai M. Gattaz qui passe. C'est sa dernière université d'été avant de passer le relais.
Oui, exactement. C'est la dernière.
Et surtout, il a l'air d'être très content des mesures qui vont être prises en France ces jours-ci, avec en tout cas les ordonnances sur le code du travail.
Mais ce qui est intéressant et ce qu'on a pu voir, parce que souvent, une vision du MEDEF, je ne suis pas un membre du MEDEF, j'étais invité pour venir parler ici, une vision du MEDEF qui est évidemment très libérale, ce que j'ai pu entendre ici, comme vous, dans les allées, c'est un monde qui est en train de se transformer. Ce monde qui est en train de se transformer, Guy, c'est un monde qui est en train de se transformer parce qu'il n'y a pas que le côté libéral. Le monde social aujourd'hui est un monde essentiel.
Et c'est là où vous arrivez, je disais, en serial entrepreneur, vous avez fait plusieurs fois fortune et maintenant vous êtes reconverti dans la philanthropie, si je peux dire.
Dans le bien social.
Oui.
Tout à fait.
Vous avez fait une conférence sur la Disruptez-vous.
Oui, le point aujourd'hui, on parle de disruption sociale, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. La plus grande disruption, c'est la disruption justement où on va sortir des chemins qui ont été tracés depuis des décennies. Des choses simples à mettre en place, que chacun peut mettre en place. Par exemple, l'arrondi solidaire.
Alors, ça, c'est un de vos chevaux de bataille.
Exactement, en fait. L'arrondi solidaire, c'est quand vous recevez votre feuille de salaire, c'est jamais 0,0 à la fin, après les virgules, c'est toujours 23 cents ou 75. Les entreprises disent, vous savez quoi, vous pouvez commencer à donner ce que vous voulez. Le minimum, c'est ce qui est après la virgule. Donc, c'est assez indolore. C'est systématique puisque c'est tous les mois sur votre feuille de paie. Et c'est optionnel. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Le chiffre n'existe pas. C'est votre seuil de douleur. Donc, vous qui m'interviewez maintenant, c'est quoi votre seuil de douleur? Peut-être que c'est le même que le mien. C'est peut-être donner 0,1% de ce que vous avez. Peut-être c'est 10%. Ne dépassez jamais ce seuil-là. MEDEF, comme la plupart des entreprises et des PME, ce sont des pragmatiques, ce sont des darwiniens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais faire si je pense que c'est meilleur pour mon entreprise, mes salariés, mes clients et à terme ma famille. De faire que le monde de demain, leur monde à eux, va être meilleur. C'est le travail de chacun. C'est un monde qui est évidemment libéral et c'est difficile de dire que ce n'est pas le cas.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bolcheviques par ici. Quoi.
Alors, assez peu, j'ai essayé d'en trouver, j'en ai pas trouvé.
Alors, disruptez bien.
Disruptons, merci Guy, merci.
Pour l'économie, pour l'entreprise, pour libérer les talents, pour redonner de l'enthousiasme, pour redonner de l'optimisme aux gens et de l'espoir.
Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux, qui sont désormais publics, se proposent de rattraper des années perdues.
Parmi les points les plus âprement discutés, la question des indemnités prud'homales est désormais tranchée. Elles vont être plafonnées de 3 mois à 20 mois de salaire maximum. Une victoire pour le patronat.
Parce que c'est notre projet !
Les syndicats espéraient deux fois plus. Enfin, les plans sociaux dans les grandes entreprises. Une multinationale pourra licencier dans ses filiales françaises en cas de difficultés économiques, même si l'ensemble du groupe fait des bénéfices.
Profitez-en.
Vous voyez, Gilles, ces ordonnances vont beaucoup plus loin que la loi El Khomri, qui pourtant, je vous le rappelle, a démis des centaines de milliers de Français dans la rue.
Donc les râleries des syndicats sont de circonstance et la joie des patrons est rentrée. Ils ont du mal à la cacher, mais ils disent quand même en coulisses que s'ils applaudissent, c'est parce qu'ils veulent à tout prix que Macron réussisse. Donc vous voyez, il faut regarder entre les lignes de ses joies ou de ses colères.
Du bruit.
Changement d'ambiance. Alors que les conférences de l'université d'été du MEDEF se poursuivent sur un ton assez consensuel, vous l'avez peut-être remarqué, de l'autre côté, à l'entrée du campus d'HEC Dijon-Josas, sur le petit rond-point, une présence policière très très importante, une petite sono, une petite musique et un petit groupe de manifestants qui appelle à la séparation du MEDEF et de l'État. Loi travail 2, ordonnance ou pas, on n'en veut pas. Nos vies valent plus que leurs profits. Nous ne négocierons pas le poids de nos chaînes. Ni amendable, ni négociable, retrait de la loi travail.
Voici le Pierre Krasiecki, le fils d'Henri Krasiecki. Quand on voit que la loi qui se prépare, c'est une loi qui va faire en sorte que les gens qui vont être virés du jour au lendemain auront moins de temps de recours au prud'homme, et qu'en plus au prud'homme on veut plafonner les indemnités, alors que la logique veut que lorsqu'on va au prud'homme, c'est pour obtenir réparation d'un préjudice que le juge apprécie. Il n'est pas là pour tarifier un préjudice, il est là pour l'apprécier à sa juste valeur et à partir de là accorder quelque chose aux salariés. Mais si dès le départ on dit maintenant c'est terminé, c'est comme ça et pas autrement, non, c'est pas possible. La loi de Macron, c'est pour faire voler en éclats toutes les garanties qu'avaient les salariés jusqu'à présent. Alors, qu'on qualifie de rigide au MEDEF, moi je vois bien, sauf qu'eux, ils avaient jusqu'à présent malgré tout comme pas mal de pouvoir, et que là ils en ont encore beaucoup plus, et que les salariés vont se retrouver dans une situation, mais alors catastrophique. On peut dire tout ce qu'on veut, hein, tout le raisonnement du MEDEF, sauf que je vois que la réalité, ça fait 50 ans qu'on nous parle de sacrifice, ils n'ont jamais rien donné jusqu'à présent, sauf de plus d'argent à ceux qui nous dirigent, et de moins en moins à ceux qui travaillent. C'est ça le problème, il est là le problème. L'antagonisme entre les deux, il est là. Ouais. Mais le patron, il fera ce qu'il voudra. En termes de conditions de travail, il aura tout, il aura beau jeu de dire « moi je fais ça, 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 ça », puis vous n'êtes pas d'accord, vous avez une direction, c'est la porte.
Mais là, en parlant avec les patrons qui sont à l'université d'été du MEDEF, c'est qu'ils ont entendu, enfin...
Oui, ils ont une revendication, alors pour eux, pour le coup, c'est une revendication patronale. Ils disent à Macron « surtout, ne lâchez pas ». Ils se rendent compte qu'en face de Macron et en face d'eux, il y a du monde. Et que ce monde est déterminé à agir et que cette action, même si elle démarre aujourd'hui, va se poursuivre le 12 à Paris. Et ça va être national. Ça va être pas que Paris, ça va être partout. Ils savent très bien qu'il risque d'y avoir pas mal de pression vis-à-vis de Macron et ils lui demandent justement de ne pas céder. Parce qu'ils veulent garder les avantages que la loi leur accorde. Ils veulent surtout pas les remettre en cause. Alors que là, franchement, quand on voit ce qui est fait dans cette loi, c'est franchement une catastrophe parce que les gens vont se retrouver sans rien. Ils n'auront plus de recours.
Paris, ouais. Le 34 septembre. Bonjour, ce ne choque pour moi, je veux dire, pas pour quelqu'un comme moi, mais pour moi, le vrai moi, c'est-à-dire plus grand chose, puisque j'en suis là, moi, à dire que ce job est pour moi, alors que ce job, ou quelque chose comme ce job, est contre moi, justement, contre son idée même. Tu vois ce que je veux dire? Merde. Je suis dynamique et j'ai l'esprit d'équipe. Amenez-vous et je ressuscite. Alors, oui, je postule parce que j'y crois, moi, aux images. Parce que j'y crois aux décodeurs. Et que c'est moi qui crois tout ça, moi. Moi, le grand moi qui embauche des phrases entières pour les virer, les augmenter. Cordialement. Cordialement. Cordialement.
Alors, je vais donner la parole à un copain de Deliveroo qui mène actuellement une lutte exemplaire, on dira, parce que les conditions de travail à Deliveroo, c'est bien celles qui vont arriver avec ces nouvelles lois de travail bis. Donc, je lui donne la parole.
Ouais, bonjour. C'est exactement ça. Moi, je travaille chez Deliveroo. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle le CLAP, le collectif des livreurs autonomes parisiens. Et le 12, on va essayer en fait d'essayer de regrouper tous les gens qui sont comme nous, tous les ubérisés, mais tous les précaires d'une manière générale, tous les jeunes qui sont obligés de taffer pour payer leurs études, tous les jeunes qui galèrent, essayer de faire un grand cortège commun, quelles que soient les boîtes, que ce soit Stuart, Foodora, Deliveroo, Uber Eats. On essaie de regrouper tout ça, on essaie de ne pas rester isolé, d'essayer de regrouper les combats. C'est ça notre objectif et je pense que ça va aller loin. Merci.
Mais alors justement, c'est ça que je comprends pas. Là, vous êtes du côté des manifestants qui se regroupent tenus à l'écart de l'université des MEDEF par les CRS et la Maréchaussée. Mais normalement, vous, c'est à l'intérieur que vous devriez être. Vous autres, les livreurs à vélo, vous êtes des auto-entrepreneurs. Et votre place, elle est avec les patrons.
Ouais, c'est ça. Je pense que je suis peut-être le seul patron qui est présent ici à la contre-manif du MEDEF. Mais Mais en fait, le truc, c'est que je suis pas sûr qu'on soit le même type de patron. Gataz, apparemment, s'est acheté un château à 11 millions. Moi, je viens de m'acheter des nouvelles lampes pour mon vélo. Je suis assez content et j'ai dû économiser pendant un mois parce que c'était un peu galère. Mais ouais, je suis pas sûr qu'on soit le même type de patron et que eux, les conditions actuelles de l'auto-entrepreneuriat, c'est eux que ça sert et c'est nous que ça dessert. Je pense qu'il y a un fossé entre nous. En fait, on n'est absolument pas des patrons. Nous, ce qu'on dénonce, c'est que c'est une forme de salariat qui est déguisée, qui permet à ces boîtes-là, à ces nouvelles start-up innovantes qu'on dit, de détourner le code du travail.
Vous êtes en fait en avance d'une loi, quoi. Votre statut, il est déjà un peu ce que sera le statut général après ce que risque d'être la réforme du code du travail.
Ouais, c'est ça. Après, je ne sais pas si on est en avance ou si on est en retard de 2 siècles. C'est toute une question. J'espère
qu'on ou 19e siècle ou 21e siècle.
Voilà, c'est ça. J'espère que tous les travailleurs finiront pas la même sauce que nous. Mais c'est d'ailleurs justement pour ça qu'on essaie de regrouper des livreurs, de commencer à se battre, de commencer à s'organiser, de faire des manifs, de faire des premières expériences de grève, d'essayer de mettre une pression à la boîte pour qu'ils nous reçoivent. Et en fait, c'est ça qu'on dénonce. Nous, on veut pouvoir discuter, de sortir de cette zone grise qui est l'auto-entrepreneuriat. On n'a pas le chômage, on n'a pas la retraite, on n'a pas la sécurité sociale, on n'a pas de sécurité de l'emploi. On est obligé.
Que vous faites renverser par une voiture, c'est pour votre pomme.
Donc en fait, les livreurs qu'on voit à vélo qui roulent toute la nuit dans les grandes villes de France, ces mecs-là, pour 80% d'entre eux, ils ne sont pas assurés. S'ils sont renversés, s'ils ont un accident, c'est pour leur pomme. Les jours où ils ne travailleront pas parce qu'ils seront blessés, en fait, ça sera pour leur pomme. Le vélo qu'il faudra réparer sera pour leur pomme. Le coût de l'hospitalisation, s'il y a, ça sera pour leur pomme. En fait, on a tout qui est pour notre pomme. On n'a plus rien, ce truc-là d'individualisation au maximum. Et nous, c'est notamment ça qu'on combat dans le CLAP, cette individualisation. Nous, on est contents de notre travail, on veut continuer à le faire. J'aime bien faire du vélo, je préfère faire ça que McDo et faire des frites toute la journée. Mais ce qu'on veut dedans, c'est une rémunération juste, des droits et une sécurité. C'est ça qu'on revendique. Accordez-moi une chance de rester dans la danse, des billets du Bordeaux avec les tickets resto. Parce que dehors j'ai peur, j'ai besoin d'un salaire. Parce que dehors j'ai froid, j'ai besoin d'un contrat entre moi et toi.
Alors on va continuer les interventions, les prises de parole. C'est parti.
Et voilà, on retraverse le rond-point, on passe de l'autre côté. Dans le campus d'HEC pour aller retrouver les patrons qui se retrouvent à cette université d'été du MEDEF en toute confiance, en toute sérénité, ravis de l'orientation choisie par les gouvernements, ravis de l'avenir prévu pour la France.
Cordialement. Nous voulons que nos jeunes trouvent de l'emploi. Nous voulons que nos salariés soient heureux, motivés. Nous voulons que les Français soient épanouis. Nous voulons tout ça. Nous voulons leur redonner du pouvoir d'achat. Nous voulons redonner du PIB par habitant. Tout cela, c'est par l'entreprise. Vive l'entreprise et vive la France. Merci beaucoup.
Yann Gattaz.
Moi, je représente l'industrie chimique en Ile-de-France avec plein d'espoir dans un fonds économique frémissant. On est prudent dans les termes, mais on sent qu'il y a un mouvement positif qui s'amorce. Et là, on sent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Là, on nous propose d'essayer de nouvelles voies. Essayons. On essaye, mais il faut que ça marche, quoi. Là, aujourd'hui, tout est possible. Voilà. Et donc, c'est quand même intéressant. Non, il y a un mouvement intéressant.
Vous avez l'impression, en tant que voilà, les entrepreneurs sont écoutés.
C'est l'impulsion de Macron, certainement. On parle du licenciement et de la simplification du licenciement. Bah, quelqu'un l'a dit, le patron de l'assaut, qui était là tout à l'heure, nous a dit, et c'est vrai, un patron, il ne fait pas tourner sa boîte pour faire du licenciement, c'est pas vrai. S'il peut embaucher, il le fait. Alors il a besoin d'une sécurité, parce que la problématique dans nos textes, c'est l'insécurité. Donc s'il peut embaucher dans la sécurité, dans la lisibilité, je peux vous dire que là, ça va créer un mouvement d'enfer. On est dedans, hein, on est dedans et on espère. Hein. Et quand je dis on, c'est pas que les entrepreneurs. Hein, c'est, je pense, tous les Français. Hein. Faites un micro-trottoir, pas à la sortie du campus, parce que là, ça va être un peu difficile.
Ça va être des gauchistes.
Ouais. On en a besoin, mais il faut pas exagérer. Là, ils profitent de la tribune pour être entendus. Mais vous voyez, ici en France, toutes les forces, y compris l'opposition, accepter un temps de rentrer dans le jeu de la confiance, bah, ça serait quand même pas si mal. Qu'on essaye un peu. Hein, il faut leur donner le mot. Allez, qu'ils fassent un moratoire pour voir.
Ouais. Un moratoire sur les grèves.
Voilà.
Mais là, ils donnent rendez-vous le 12 septembre pour une...
Oui, bah oui, bah oui, d'accord. Oui, bah ça, oui, ça, ça, on entend beaucoup parler.
Ouais. Pour l'instant, nous sommes sur un nuage. Pour l'instant, Emmanuel Macron fait un sans-faute. Je crois qu'il est très apprécié de l'international. Ça donne une belle image de la France, de renouveau pour l'économie, pour l'entreprise, pour libérer les talents, pour redonner de l'enthousiasme, pour redonner de l'optimisme aux gens et de l'espoir. Il veut réformer le marché du travail, il veut baisser la fiscalité, il veut libérer...
Ce garçon-là aime les claques. Donne-moi.
Profitez-en.
Le gouvernement sera confronté à sa première manifestation contre la réforme le 12 septembre.
Pour l'instant, la contestation part plutôt en ordre divisé, avec deux manifestations, l'une le 23 septembre organisée par la France Insoumise, l'autre le 12 à l'appel de la CGT et de Solidaires. La CFDT, pourtant déçue par le texte, n'y participera pas. Force ouvrière de son côté n'est pas censée défiler, mais certains de ses syndicalistes ont déjà prévenu. Ils iront, qu'importe les consignes.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
Alors, vous l'avez entendu au cours de ce reportage de Guy Banquetil, les patrons sont contents. Ça, ils sont contents, mais ils sont quand même aussi un tout petit peu inquiets. Et ils ont raison, car au cours de l'été, la banque Natixis publiait une note pour alerter les investisseurs de, je cite, « la possibilité de voir les salariés se révolter face aux inégalités de plus en plus fortes ». Et si révolte il y avait, poursuit cette note, elle entraînerait une hausse des salaires et une chute des marchés, donc des dividendes. Et ça, c'est mauvais pour les actionnaires.
En tout cas, à mesure que les ordonnances seront détaillées, qu'on en mesurera les conséquences pratiques, on attend la suite avec impatience, puisque le MEDEF a plein d'autres idées à venir, de projets de réforme pour l'assurance chômage ou des retraites, mais aussi parce que la mobilisation en face commence à s'organiser avec un test, premier test le 12 septembre, la première grande grève peut-être de l'ère Macron.
Alors avant le 12 septembre et pour se mettre en jambes, Antoine, tu nous emmènes à Uzest, un lieu de résistance où depuis 40 ans, on œuvre à l'insurrection des consciences.
Direction Uzest, oui, au milieu du triangle des Landes girondines. Pour la 40e Estellada de la Sarthe, c'est un lieu d'insurrection des consciences et aussi musical, poétique et politique. Aux antipodes de la frénésie festivalière de l'industrie du divertissement, un repère d'œuvriers qui fabrique du poélytique mystère.
Approchez, approchez! Approchez,
approchez! Je ne sais pas si c'est moi qui commence. Je vais commencer. Voilà. Parce que commencer. Vous savez où commencer?
Sous les étoiles exactement.
Comment ça? Bon. Œuvrier. C'est un mot comme ça qui est. Il a dû être inventé, je ne sais pas où, comme ça, œuvrier, parce que je ne sais pas, à force d'œuvrer.
Tu brilles !
On est tous des œuvriers, on est tous des œuvres à l'œuvre, on n'est pas des cons, on n'est pas des abrutis. Ou alors, si ça nous arrange, on le reste. Je ne sais pas comment font ceux qui ne veulent pas. Mais on est tous à l'œuvre de nous-mêmes. Toutes ces manifestivités qui se bougent d'ici symbolisent ce désir de s'improvisionner. Donc, poélytique, c'est musique à vivre et pas à vendre. Voilà. Ramasser, politique, poétique, éthique, esthétique, ludique, parfois lubrique, personne n'est parfait. Tout cet ensemble de hic, tout dans hic, le poélytique.
Radio Uz, 40e Estellada de la Sarthe, du zeste musical.
Une mise en onde sauvage de l'Estellada de la Sarthe depuis la Caravanonaire par des étudiants du Créadoc d'Angoulême, le collectif Radio Debout et la Radio Uz, canal historique.
Oui, du poélytique et du radiophonique aussi, Bernard. Et on était un paquet d'allumés de la radio venus faire du son et mettre Uzest en onde. Et de quoi Uzest est-il le nom, N-O-N ? Non à la musique en boîte, à l'industrie du divertissement et à la fanatisation du public. Non à la grande distribution, aux grandes surfaces qui tuent les villages et centres-villes. Non au parking et aux tout-bagnoles et aux villages dortoirs, comme le dénonçait André Gorce. Et non à la radio qui dort, endort et monnaie du temps de cerveau disponible. Alors avec tout ça et avec le copain du Créadoc, le le master de documentaire de création d'Angoulême, du collectif Radio Debout et de Radio Use, Canal Historique. On a improvisé, on a fictionné, on a sublimé le réel pour mieux le comprendre et le critiquer avec les amis de la compagnie. Luba de la CGT avec les invités de l'Estéiade et les jeunes musiciens œuvriers du parti collectif qui mène la relève, et ça fait plaisir. Radio Use, c'est avec vous.
Radio Use.
Oh, un bruit qui court
jusqu'à la fin.
Ha !
À minuit au parc Séguin, crash test.
Quand les murs tombent,
une performance.
L'intraitable beauté du monde. Ah !
Crash test.
Silence.
Crash test. Idéologie sociale de la bagnole.
André Gorce, 1973.
Entre deux voitures. Ce vide n'appartenant à personne. Appartient à tous. Le vice profond des bagnoles, c'est qu'elles sont comme les châteaux ou les villas sur la côte. Des biens de luxe inventés pour le plaisir exclusif d'une minorité de très riches. Et que rien, dans leur conception et leur nature, ne destinait au peuple.
L'idéologie sociale de la bagnole.
On y va, on va y aller. Ça va y aller. Crash test. À la différence de l'aspirateur, de l'appareil de TSF ou de la bicyclette, qui gardent toutes leurs valeurs d'usage quand tout le monde en dispose, la bagnole, comme la villa sur la côte, n'a d'intérêt et d'avantage que dans la mesure où la masse n'en dispose pas.
On se retrouve tous derrière l'écran, ça devient un gros coup d'énergie.
Ouais, ok.
Merci.
Devant cette voiture carrée, avec marqué no parking, et c'est peut-être ce projet de parking qui est prévu ici sur le pré Casaubon. Alors on a surpris une conversation tout à l'heure d'un grand parking qui allait peut-être être construit ici sur ce pré Casaubon historique du centre du Zest, qui accueille le festival, une partie du festival, et qui a accueilli le chapiteau. C'est juste à côté de l'école, et il y a un projet assez inquiétant sur ce parking.
Crash test ! La ZAD de Casaubon est déclarée d'utilité publique !
Où les étoiles exactement ?
Radio Use.
Oui, c'est vrai, avec les oreilles, j'y vois mieux.
Papa, viens inviter maman. Danse, petite étoile.
Enquête, crash test, suite. Rappel des faits. Hier, un message a été intercepté sur la place du village.
Hey, tu brilles !
Un message qui laisse entendre qu'un projet de parking géant est prévu à Uzest, sur le pré Casaubon. Enquête, avec Jacques Bonafé dans le rôle du bétonneur.
Voilà la parcelle. Donc là, on est sur 1,5 hectare.
On connaît votre projet, c'est pour ça que je tenais à inviter
d'accord.
Monsieur le maire.
Je vais respecter quelques arbres, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire un parking. Et qu'il soit vraiment étonnant pour que les gens...
Qu'il soit bien plat, voilà. Bien plat et... Hein.
Oui,
voilà.
Et que ça étonne.
Sortir soit, toutes les
surtout très bétonné, parce que c'est un peu épouvantable, toute cette nature.
Mais la dynamique que ça peut insuffler au niveau du village, voilà, a été validée par le conseil municipal, donc vous avez... Il y a juste des insoumis un peu usastois, là. Insoumis,
désoumis. On leur dit bien que ce sera question de pluralité. Un parking construit dans les normes d'environnement et de respect du carbone.
Hein. BPE 640, ouais, normes
tout
européennes.
Tout à fait. En plus, il y a de l'eau dans le fond, tout ça, il faut bétonner tout
avec
ça.
Avec un potentiel de création artistique dans les volumes même du parking.
Super, c'est le 1%. Voilà.
Oui.
Tout va bien.
Il est intégré dans la création même, on va bien au-delà de 1% artistique. C'est une œuvre artistique en elle-même. C'est l'un des premiers parkings conçus aussi comme plateforme d'art et d'expression de l'architecture urbaine.
Et donc là, enfin, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant dans votre projet, en quelque sorte, c'est réutiliser tous ces arbres qu'on va couper pour créer du merchandising, comme la casquette en liège
casquette,
vous avez, le 1% en quelque sorte, qui protège du soleil, qui protège de l'insurrection.
Alors effectivement, on peut faire aussi des t-shirts en contreplaqué, ils peuvent être assez étonnants.
Bétonnant d'ailleurs, oui, ça, voilà, superbe terme que vous avez inventé bon, pour le
sinon,
concept.
Quand même là.
On pourrait c'est continuer des heures, hein, mais voilà. Non, parce qu'en fait, Jacques Bonafé...
Donc, on s'inquiète beaucoup sur l'avenir du pré Casaubon. Et là, donc, toute une série de voitures sont garées sur ce pré Casaubon qui a l'air d'être justement des résistants à ce projet de parking qui se sont réunis aujourd'hui et qui font comme... une ZAD, une zone à défendre contre le parking qui bétonnerait tout cet espace naturel, zone humide s'il en est, vu que la petite Oune passe par ce pré avant de se jeter dans le Siron quelques kilomètres plus bas. Et il va falloir effectivement venir investir la ZAD à défendre.
La ZAD Casaubon est déclarée d'utilité publique.
Nous aurions la vitesse.
Nos parcs.
L'égoïsme agressif et cruel du conducteur qui, à chaque minute, assassine symboliquement les autres, qui ne perçoit plus que comme des gènes matériels et des obstacles à sa propre vitesse. Cet égoïsme agressif et compétitif est l'avènement d'un comportement universellement bourgeois.
Les activistes anti-parking, no park, sont dans leur voiture. 5 voitures qui nous font face dans le pré-Casaubon.
Crash test, idéologie sociale de la bagnole. Crash test, racontez-nous une histoire vraie. Le mythe de l'agrément et de l'avantage de la bagnole persiste alors que les transports collectifs, s'ils étaient généralisés, démontreraient une supériorité éclatante. Crash test! La généralisation de l'automobilisme individuel a éventé les transports collectifs, modifié l'urbanisme et l'habitat. Quand la voiture a été inventée, elle devait procurer à quelques bourgeois très riches un privilège tout à fait inédit, celui de rouler beaucoup plus vite que tous les autres. Personne jusque-là n'y avait encore songé. La vitesse des diligences était sensiblement la même, que vous fussiez riche ou pauvre. La calèche des seigneurs n'allait pas plus vite que la charrette des paysans. Il n'y avait donc pas, jusqu'au tournant du dernier siècle, une vitesse de déplacement pour l'élite, une autre pour le peuple.
Et nous avons entendu la musique forte et intensive. Ce n'est qu'au moment de la descente du monde.
Il y aurait autant de clients de l'industrie pétrolière que d'automobilistes. Et tous les hommes allaient dépendre pour leurs besoins quotidiens d'une marchandise dont une seule industrie détiendrait le monopole. Les gens se ruèrent sur les bagnoles jusqu'au moment où les ouvriers, y accédant à leur tour, les automobilistes constatèrent frustrés qu'on les avait bien lus. On leur avait promis un privilège de bourgeois. Ils s'étaient endettés pour y avoir accès et voici qu'ils s'apercevaient que tout le monde y accédait en même temps.
Parce que, pardon, vous avez cru que c'était un spectacle ?
J'ai dit spectacle.
Parce que vous êtes pas au courant, donc c'est une ZAD qui est en train de démarrer là, parce qu'il y a un projet de parking géant ici. Un projet de parking géant sur le pré Casaubon. Et donc là, il y a le front anti-parc, anti-parking, qui commence et qui s'installe aujourd'hui. Donc il y a eu un appel national. Et donc il y a maintenant des camions qui arrivent de la France entière. À partir d'aujourd'hui, le pré Casaubon est déclaré zone à défendre.
Bon, merci l'info,
avec,
parce que je ne savais pas.
Compris.
Le jardin partagé, compris, oui. Alors, le jardin partagé, ce serait une pompe à essence dans le nouveau projet municipal. Après avoir agrandi le cimetière, ils veulent faire un grand parking.
Non, mais
alors, vous êtes pour ou contre le parking, vous?
Ah ouais? Bah, bon, moi, j'aimerais bien. Enfin, tu vois, s'il y a quelque chose à signer quelque part, une pétition, un
pour
truc
le
comme
parking
ça. Ouais, parce que je trouve ça. Enfin, bien, moi, j'adore les voitures, en fait.
Alors, on va faire un petit débat, là.
La vanne est ouverte!
Il y a un grand projet de parking ici. Qui est pour le parking? Voilà, il y en a un qui est pour le parking. Qui est contre le parking, le grand parking qui est fait ici?
À la une! Un, deux, un, trois.
L'obstacle commun.
La bagnole a rendu la grande ville inhabitable. Elle l'a rendue puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée au point que les gens n'ont plus envie de sortir le soir. Alors, puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut davantage de bagnoles, encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues encore plus lointaines. Donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles. La ZAD de Cazembon est déclarée d'utilité publique.
Celui-là, c'est pas le bon. Celui-là, on peut le virer. On
est un petit peu en biseau, ce moment. Ouais. 1, 2, 3, 4, et. Donc, on est du côté du Pré-Cazembon et Zest.
Reportage à chaud, Radio Use avec des moyens techniques limités. Les zadistes, bien évidemment, les trois camis qui sont là, refusent de s'adresser à la presse officielle. Donc c'est Radio Use qui a pu s'infiltrer dans le campement des zadistes qui grandit au fil de la journée. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de tentes, de cabanes qui sont en construction sur le pré Cazembon.
On est en train de construire une plateforme surélevée pour pouvoir s'installer en fait en hauteur.
D'accord. Donc à la cime des arbres pour résister à l'assaut aux policiers qui s'annonce. Camille.
On s'inspire des modes de construction des armées romaines en fait pour aller contre l'armée industrielle du capital. Ouais.
Vous arrivez d'où alors de Bure, de Notre-Dame-des-Landes, où vous êtes des rescapés de Sivens?
Non, aucun de ça. On est libre comme l'air et on sort du bois en fait.
Bon, faut qu'on monte. Hein.
Tire là, mais en fait, lui, il doit être là.
Des outils perfectionnés pour construire les cabanes. Noyant en fait à son supermarché, en train de construire un supermarché, et donc Uzès, la mairie d'Uzès a décidé d'avoir son parking.
C'est un vrai truc.
Pourquoi la bagnole est-elle traitée en vache sacrée?
Pas parking, pas parking, pas parking. Pas market, ma rara supermarket.
Gilbert, on est à combien de kilomètres à vol d'oiseau du Zest ici?
7.
7 kilomètres, d'accord. Et donc, j'étais venu vous voir là il y a quelques temps pour ce projet de Carrefour Contact.
Tout à fait,
là, les travaux ont commencé.
Les travaux ont commencé, oui. Ils ont fait des terrassements titanesques. Voilà. Ils ont goudronné et ils sont tombés. Ils ont eu la malchance de tomber sur des sources, parce que par ici, il y a des sources qui sortent un peu partout. Donc apparemment, c'est pour ça qu'ils ont fait ces terrassements-là, pour construire le supermarché sur, un peu sur pilotis, quoi, pour qu'il y ait les bonnes assises. Le Carrefour Contact doit faire... Enfin, la surface, c'est 1100 m², la pompe à essence, 600 m².
Voilà, donc c'est le projet municipal.
C'est le projet municipal.
Elle a réussi, donc la mairie a réussi à imposer ce projet qui va détruire les commerces de tout, des villages aux alentours.
Oui, tout à fait, oui.
Je viens te voir, Gilbert, parce que pendant le festival du Zest, on a intercepté une conversation sur la place du village, surprenante, ouais. Où on a entendu parler d'un grand parking géant qui allait être construit sur le Pré-Cazembon à Uzest. Un parking géant.
Le Pré-Cazembon, ah ouais? Je ne suis pas au courant de ça.
Tu vois le Pré-Cazembon?
Oui, tout à fait. Là-bas, là où il y avait le festival se faisait avant. Ouais.
Alors, on a pensé que c'était peut-être le parking du supermarché que vous allez avoir ici, avec un parcours santé qui permettrait aux gens, avec leur caddie,
après d'aller... avoir régurgité de l'huile de palme, c'est une bonne idée, remarque. C'est une très bonne idée.
Alors, vous n'en avez pas entendu parler. Christine aussi, toi, tu non. Parce que vous faites quand même du fromage ici, hein, du fromage de chèvre, de la tome de chèvre.
La tome de chèvre. Oui, que l'on vend uniquement en vente directe, sans passer par les supermarchés.
Donc c'était pour vous tenir au courant.
Bien.
et pour prendre des nouvelles donc de, voilà, du chantier ici. Donc le chantier effectivement a été validé et a réussi à passer la mobilisation locale qui s'était...
Oui, et ça, sans compter qu'en plus, tous ces terrassements, toute cette terre qui a été enlevée, a été reportée sur une ancienne zone qui était un peu humide, marécageuse et tout, une propriété dont avait hérité la mairie il y a 4 ans de ça, de M. Dubernet, au lieu dit Artigol. Et en principe, normalement, sur le testament, c'était notifié que la mairie devait garder toute la propriété dans l'état, mais en l'entretenant et tout. Et là, ils ont fait un super truc qui ressemble vraiment... Là, par contre, ça ressemble à un super beau parking. Et le devenir de ça, je ne sais pas, par contre, ce que ça va être.
Donc l'avenir de, voilà, des campagnes, c'est les parkings, quoi.
C'est les parkings, oui, les parkings. Et voilà le devenir de notre belle lande girondine.
Donc l'idée, c'est que ça devienne des villages dortoirs pour les gens qui travaillent à Bordeaux.
C'est déjà. Oui, oui. Et je suis même pas sûr, en plus, bon, Carrefour Contact, il y a pas, je suis même pas sûr que les gens qui viennent là aillent faire leurs courses à Carrefour Contact. Ils travaillent à Bordeaux, ils ont tout ce qu'il faut à Bordeaux. Ils vont pas attendre d'être à Noyon pour, après ça. Ouais. Voilà, mais il y a vraiment une inutilité. Il y a tout ce qu'il faut à Villandreau et
il y a du commerce de proximité à Villandreau.
Il y a tout ce qu'il faut.
À Uzest aussi depuis longtemps.
Il y a tout ce qu'il faut. De Villandreau à Noyon, il manquait une piste cyclable, quelque chose de pédestre pour pouvoir y aller à pied, pour qu'il y ait une circulation autre que la route qui devient qui est très très passante, donc c'est infernal. On peut pas y aller en vélo, on peut pas laisser les enfants y aller à pied, on peut pas. Il y avait vraiment un côté nature, une carte nature à jouer. Ils ont joué tout le contraire, c'est une catastrophe écologique. Noyant, c'est la cata, quoi.
Donc le parcours santé pour aller du parking du Pré-Casaubon à la grande surface ici, ça vous satisfait pas, quoi?
Ça, bah non.
Ça manque un peu de crédibilité, non, non, non. Je crois.
S'il vous plaît, monsieur le maire, on a quelques questions au sujet du parking là que vous voulez faire là, parce que il y a de la mobilisation en ce moment.
Je suis conseiller pour les visions d'avenir, voilà. Et je pense que bien souvent on manque de vision. Et j'ai cette vision d'une véritable architecture nouvelle, hein. C'est pas seulement un parking. Il faut savoir aussi que la légère pente du parking va favoriser une espèce de vue vers l'horizon qui sera extraordinaire. Nous l'espérons dans la suite pouvoir la dégager et jusqu'à la mer. C'est-à-dire que la vision permettrait d'imaginer comme ça les horizons lointains maritimes. Car il est bien certain qu'aujourd'hui, il faut raccourcir les distances et que cette terre ici est un peu enclavée. Et que la construction d'un grand parking, qu'on peut imaginer comme une sorte de, j'ai peur que l'image trouble, mais une sorte de tremplin, hein, un tremplin vers l'avenir, vers le futur. Ce tremplin soit à la fois une piste ici de voitures de course, hein, qui puisse, pourquoi pas, au niveau national, être un des premiers circuits automobiles du geste. Ça serait pas mal.
Et la ZAD, Casaubon, on est évacués de la ZAD. D'un coup, le maire a envoyé les flics. On doit déguerpir assez vite.
Les grenades assourdissantes ont été lancées par les forces de l'ordre.
Mais on est
nombreux. Nous sommes au cœur de l'action. Nous serons toujours du côté des zadistes.
On lâche rien.
Pourquoi la bagueule est-elle traitée en vache sacrée?
Bon alors Antoine, c'est à la fin, c'est qui a gagné? C'est les flics ou c'est les zadistes?
Devine, à Uzest, au Pré-Casaubon, à la fin, c'est nous qu'on a gagné. Comme c'est une fiction, on fait ce qu'on veut, on ne se résigne pas, c'est pratique. Par contre, à Noyon, c'est malheureusement pas de la fiction, c'est vraiment une grande surface qui est en construction, avec des terres artificialisées et des centres visages qui se désertifient. Il y en a vraiment qui vont pas dans le bon sens, qui croient encore que la solution, c'est la grande distribution, il y a du boulot, mais on lâche rien et on ira bientôt à Notre-Dame-des-Landes, justement, pour faire un petit compte-rendu de la lutte là-bas. C'était donc Crash Test au Pré-Casaubon, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être fortuite, une fiction radiophonique improvisée avec Jacques Bonafé, Bernard Lubat, Gilles Defac, Rainer Tchao, Clémence Bûcher, Mona Convert, Victor Givois, Marine Lagarde, Clémentine Lériena, Gilbert et Christine de la Bergerie de la Meaux, La Noyant et Clémence Boudet. Vive la radio!
C'était comme un bruit qui court, modeste contribution au dialogue entre patrons libéraux et œuvriers poyélitiques. On vous l'avait bien dit que cette émission serait sensationnelle. En tout cas, retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter et juste après les infos, retrouvez Daniel Morin pour un nouveau rendez-vous d'humour. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 16h.